Chapitre 8 Suite des tribunaux fédéraux. J'ai examiné le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif de l'Union. Il me reste encore à considérer la puissance judiciaire. Ici, je dois exposer mes craintes au lecteur. Les institutions judiciaires exercent une grande influence sur la destinée des Anglo-Américains. Elles tiennent une place très importante parmi les institutions politiques proprement dites. Sous ce point de vue, elles méritent particulièrement d'attirer nos regards. Mais comment faire comprendre l'action politique des tribunaux américains sans entrer dans quelques détails techniques sur leur constitution et sur leur forme? Et comment descendre dans les détails sans rebuter, par l'aridité naturelle d'un pareil sujet, la curiosité du lecteur? Comment rester clair sans cesser d'être court? Je ne me flatte point d'avoir échappé à ces différents périls. Les hommes du monde trouveront encore que je suis trop long. Les légistes penseront que je suis trop bref. Mais c'est là un inconvénient attaché à mon sujet en général et à la manière spéciale que je traite dans ce moment. La plus grande difficulté n'était pas de savoir comment on constituerait le gouvernement fédéral, mais comment on ferait obéir à ses lois. Les gouvernements, en général, n'ont que deux moyens de vaincre les résistances que leur opposent les gouvernés, la force matérielle qu'ils trouvent en eux-mêmes, la force morale que leur prêtent les arrêts des tribunaux. Un gouvernement qui n'aurait que la guerre pour faire obéir à ses lois serait bien près de sa ruine. Il lui arriverait probablement l'une de ces deux choses. S'il était faible et modéré, il n'emploierait la force qu'à la dernière extrémité et laisserait passer inaperçue une foule de désobéissances partielles. Alors l'État tomberait peu à peu en anarchie. S'il était audacieux et puissant, il recourrait chaque jour à l'usage de la violence, et bientôt on le verrait dégénérer en pur despotisme militaire. Son inaction et son activité seraient également funestes aux gouvernés. Le grand objet de la justice est de substituer l'idée du droit à celle de la violence, de placer des intermédiaires entre le gouvernement et l'emploi de la force matérielle. C'est une chose surprenante que la puissance d'opinion accordée en général par les hommes à l'intervention des tribunaux. Cette puissance est si grande qu'elle s'attache encore à la forme judiciaire quand la substance n'existe plus. Elle donne un corps à l'ombre. La force morale dont les tribunaux sont revêtus rend l'emploi de la force matérielle infiniment plus rare, en se substituant à elle dans la plupart des cas. Et quand il faut enfin que cette dernière agisse, elle double son pouvoir en s'y joignant. Un gouvernement fédéral doit désirer plus qu'un autre d'obtenir l'appui de la justice, parce que, de sa nature, il est plus faible, et qu'on peut plus aisément organiser contre lui des résistances. S'il lui fallait arriver toujours et de prime abord à l'emploi de la force, il ne suffirait point à sa tâche. Pour faire obéir les citoyens à ses lois, ou repousser les agressions dont elles seraient l'objet, l'Union avait donc un besoin particulier des tribunaux. Mais de quels tribunaux devait-elle se servir ? Chaque État avait déjà un pouvoir judiciaire organisé dans son sein. Fallait-il recourir à ces tribunaux? Fallait-il créer une justice fédérale? Il est facile de prouver que l'Union ne pouvait adapter à son usage la puissance judiciaire établie dans les États. Il importe sans doute à la sécurité de chacun et à la liberté de tous que la puissance judiciaire soit séparée de toutes les autres. Mais il n'est pas moins nécessaire à l'existence nationale que les différents pouvoirs de l'État aient la même origine, suivent les mêmes principes et agissent dans la même sphère. En un mot, qu'il soit corrélatif et homogène. Personne, j'imagine, n'a jamais pensé à faire juger par des tribunaux étrangers les délits commis en France, afin d'être plus sûr de l'impartialité des magistrats. Les Américains ne forment qu'un seul peuple par rapport à leur gouvernement fédéral, mais au milieu de ce peuple, on a laissé subsister des corps politiques dépendants du gouvernement national en quelques points, indépendants sur tous les autres, qui ont leur origine particulière, leur doctrine propre et leurs moyens spéciaux d'agir. Confier l'exécution des lois de l'Union aux tribunaux institués par ces corps politiques, c'était livrer la nation à des juges étrangers. Bien plus, chaque État n'est pas seulement un étranger par rapport à l'Union, c'est encore un adversaire de tous les jours, puisque la souveraineté de l'Union ne saurait perdre qu'au profit de celle des États. En faisant appliquer les lois de l'Union par les tribunaux des États particuliers, on livrait donc la nation non seulement à des juges étrangers, mais encore à des juges partiaux. D'ailleurs, ce n'était pas leur caractère seul qui rendait les tribunaux des États incapables de servir dans un but national, c'était surtout leur nombre. Au moment où la Constitution fédérale a été formée, il se trouvait déjà aux États-Unis 13 cours de justice jugeant sans appel. On en compte 24 aujourd'hui. Comment admettre qu'un État puisse subsister lorsque ses lois fondamentales peuvent être interprétées et appliquées de 24 manières différentes à la fois? Un pareil système est aussi contraire à la raison qu'aux leçons de l'expérience. Les législateurs de l'Amérique convinrent donc de créer un pouvoir judiciaire fédéral pour appliquer les lois de l'Union et décider certaines questions d'intérêt général qui furent définies d'avance avec soin. Toute la puissance judiciaire de l'Union fut concentrée dans un seul tribunal, appelé la Cour suprême des États-Unis. Mais pour faciliter l'expédition des affaires, on lui adjoignit des tribunaux inférieurs, chargés de juger souverainement les causes peu importantes ou de statuer en première instance sur des contestations plus graves. Les membres de la Cour suprême ne furent pas élus par le peuple ou la législature. Le président des États-Unis dut les choisir après avoir pris l'avis du Sénat. Afin de les rendre indépendants des autres pouvoirs, on les rendit inamovibles et l'on décida que leur traitement, une fois fixé, échapperait au contrôle de la législature. Il était assez facile de proclamer en principe l'établissement d'une justice fédérale, mais les difficultés naissaient en foule dès qu'il s'agissait de fixer ses attributions. Manière de fixer la compétence des tribunaux fédéraux. Une première question se présentait. La Constitution des États-Unis, mettant en regard deux souverainetés distinctes, représentées quant à la justice par deux ordres de tribunaux différents, quelques soins compris d'établir la juridiction de chacun de ces deux ordres de tribunaux, on ne pouvait empêcher qu'il n'y eût de fréquentes collisions entre eux. Or, dans ce cas, à qui devait appartenir le droit d'établir la compétence? Chez les peuples qui ne forment qu'une seule et même société politique, lorsqu'une question de compétence s'élève entre deux tribunaux, elle est portée en général devant un troisième qui sert d'arbitre. Ceci se fait sans peine parce que, chez ces peuples, les questions de compétence judiciaire n'ont aucun rapport avec les questions de souveraineté nationale. Mais, au-dessus de la Cour supérieure d'un État particulier et de la Cour supérieure des États-Unis, il était impossible d'établir un tribunal quelconque qui ne fut ni l'un ni l'autre. Il fallait donc nécessairement donner à l'une des deux cours le droit de juger dans sa propre cause et de prendre ou de retenir la connaissance de l'affaire qu'on lui contestait. On ne pouvait accorder ce privilège aux diverses cours des États. C'eût été détruire la souveraineté de l'Union en fait, après l'avoir établi en droit, car l'interprétation de la Constitution eut bientôt rendu aux États particuliers la portion d'indépendance que les termes de la Constitution leur ôtaient. En créant un tribunal fédéral, on avait voulu enlever au cours des États le droit de trancher, chacun à sa manière, des questions d'intérêt national, et parvenir ainsi à former un corps de jurisprudence uniforme pour l'interprétation des lois de l'Union. Le but n'aurait point été atteint si les cours des États particuliers, tout en s'abstenant de juger les procès comme fédéraux, avaient pu les juger en prétendant qu'ils n'étaient pas fédéraux. La Cour suprême des États-Unis fut donc revêtue du droit de décider de toutes les questions de compétence. Ce fut là le coup le plus dangereux porté à la souveraineté des États. Elle se trouva ainsi restreinte non seulement par les lois, mais encore par l'interprétation des lois. Par une borne connue et par une autre qui ne l'était point, par une règle fixe et par une règle arbitraire. La Constitution avait posé, il est vrai, des limites précises à la souveraineté fédérale, mais chaque fois que cette souveraineté est en concurrence avec celle des États, un tribunal fédéral doit prononcer. Du reste, les dangers dont cette manière de procéder semblait menacer la souveraineté des États n'étaient pas aussi grands en réalité qu'ils paraissaient l'être. Nous verrons plus loin qu'en Amérique, la force réelle réside dans les gouvernements provinciaux, plus que dans le gouvernement fédéral. Les juges fédéraux sentent la faiblesse relative du pouvoir au nom duquel ils agissent, et ils sont plus près d'abandonner un droit de juridiction dans des cas où la loi le leur donne que portés à le réclamer illégalement. Différents cas de juridiction. Après avoir reconnu le moyen de fixer la compétence fédérale, les législateurs de l'Union déterminèrent les cas de juridiction sur lesquels elle devait s'exercer. On admit qu'il y avait certains plaideurs qui ne pouvaient être jugés que par les cours fédérales, quel que fût d'ailleurs l'objet du procès. On établit ensuite qu'il y avait certains procès qui ne pouvaient être décidés que par ces mêmes cours, quelle que fût d'ailleurs la qualité des plaideurs. La personne et la matière devinrent donc les deux bases de la compétence fédérale. Les ambassadeurs représentent les nations amies de l'Union. Tout ce qui intéresse les ambassadeurs intéresse en quelque sorte l'Union entière. Lorsqu'un ambassadeur est parti dans un procès, le procès devient une affaire qui touche au bien-être de la nation. Il est naturel que ce soit un tribunal fédéral qui prononce. L'Union elle-même peut avoir des procès. Dans ce cas, il eût été contraire à la raison ainsi qu'à l'usage des nations d'en appeler au jugement des tribunaux représentant une autre souveraineté que la sienne. C'est au cours fédéral seul à prononcer. Lorsque deux individus appartenant à deux États différents ont un procès, on ne peut sans inconvénient les faire juger par les tribunaux de l'un des deux États. Il est plus sûr de choisir un tribunal qui ne puisse exciter les soupçons d'aucune des parties, et le tribunal qui se présente tout naturellement, c'est celui de l'Union. Lorsque les deux plaideurs sont non plus des individus isolés, mais des États, à la même raison d'équité vient se joindre une raison politique du premier ordre. Ici, la qualité des plaideurs donne une importance nationale à tous les procès. La moindre question litigieuse entre deux États intéresse la paix de l'Union tout entière. Souvent, la nature même des procès dut servir de règle à la compétence. C'est ainsi que toutes les questions qui se rattachent au commerce maritime durent être tranchées par les tribunaux fédéraux. La raison est facile à indiquer. Presque toutes ces questions rentrent dans l'appréciation du droit des gens. Sous ce rapport, elles intéressent essentiellement l'Union entière vis-à-vis des étrangers. D'ailleurs, la mer n'étant point renfermée dans une circonscription judiciaire plutôt que dans une autre, il n'y a que la justice nationale qui puisse avoir un titre à connaître des procès qui ont une origine maritime. La Constitution a renfermé dans une seule catégorie presque tous les procès qui, par leur nature, doivent ressortir des cours fédérales. La règle qu'elle indique à cet égard est simple, mais elle comprend à elle seule un vaste système d'idées et une multitude de faits. Les cours fédérales, dit-elle, devront juger tous les procès qui prendront naissance dans les lois des États-Unis. Deux exemples feront parfaitement comprendre la pensée du législateur. La Constitution interdit aux États le droit de faire des lois sur la circulation de l'argent. Malgré cette prohibition, un État fait une loi semblable. Les parties intéressées refusent d'y obéir, attendu qu'elle est contraire à la Constitution. C'est devant un tribunal fédéral qu'il faut aller, parce que le moyen d'attaque est pris dans les lois des États-Unis. Le Congrès établit un droit d'importation. Des difficultés s'élèvent sur la perception de ce droit. C'est encore devant les tribunaux fédéraux qu'il faut se présenter, parce que la cause du procès est dans l'interprétation d'une loi des États-Unis. Cette règle est parfaitement d'accord avec les bases adoptées pour la Constitution fédérale. L'Union, telle qu'on l'a constituée en 1789, n'a, il est vrai, qu'une souveraineté restreinte, mais on a voulu que dans ce cercle elle ne formât qu'un seul et même peuple. Dans ce cercle, elle est souveraine. Ce point posé et admis, tout le reste devient facile. Car si vous reconnaissez que les États-Unis, dans les limites posées par leur Constitution, ne forment qu'un peuple, il faut bien leur accorder les droits qui appartiennent à tous les peuples. Or, depuis l'origine des sociétés, on est d'accord sur ce point, que chaque peuple a le droit de faire juger par ses tribunaux toutes les questions qui se rapportent à l'exécution de ses propres lois. Mais on répond, l'Union est dans cette position singulière qu'elle ne forme un peuple que relativement à certains objets. Pour tous les autres, elle n'est rien. Qu'en résulte-t-il ? C'est que, du moins pour toutes les lois qui se rapportent à ces objets, elle a les droits qu'on accorderait à une souveraineté complète. Le point réel de la difficulté est de savoir quels sont ces objets. Ce point tranché, et nous avons vu plus haut en traitant de la compétence comment il l'avait été, il n'y a plus à vrai dire de question. Car une fois qu'on a établi qu'un procès était fédéral, c'est-à-dire rentré dans la part de souveraineté réservée à l'Union par la Constitution, il s'ensuivait naturellement qu'un tribunal fédéral devait seul prononcer. Toutes les fois donc qu'on veut attaquer les lois des États-Unis ou les invoquer pour se défendre, c'est aux tribunaux fédéraux qu'il faut s'adresser. Ainsi, la juridiction des tribunaux de l'Union s'étend ou se resserre suivant que la souveraineté de l'Union se resserre ou s'étend elle-même. Nous avons vu que le but principal des législateurs de 1789 avait été de diviser la souveraineté en deux parts distinctes. Dans l'une, ils placèrent la direction de tous les intérêts généraux de l'Union. Dans l'autre, la direction de tous les intérêts spéciaux à quelques-unes de ses parties. Leur principal soin fut d'armer le gouvernement fédéral d'assez de pouvoir pour qu'il pût, dans sa sphère, se défendre contre les empiétements des États particuliers. Quant à ceux-ci, on adopta comme principe général de les laisser libres dans la leur. Le gouvernement central ne peut ni les y diriger, ni même y inspecter leur conduite. J'ai indiqué au chapitre de la division des pouvoirs que ce dernier principe n'avait pas toujours été respecté. Il y a certaines lois qu'un État particulier ne peut faire, quoi qu'elles n'intéressent en apparence que lui seul. Lorsqu'un État de l'Union rend une loi de cette nature, les citoyens qui sont lésés par l'exécution de cette loi peuvent en appeler aux cours fédérales. Ainsi, la juridiction des cours fédérales s'étend non seulement à tous les procès qui prennent leur source dans les lois de l'Union, mais encore à tous ceux qui naissent dans les lois que les États particuliers ont faites contrairement à la Constitution. On interdit aux États de promulguer des lois rétroactives en matière criminelle. L'homme qui est condamné en vertu d'une loi de cette espèce peut en appeler à la justice fédérale. La Constitution a également interdit aux États de faire des lois qui puissent détruire ou altérer les droits acquis en vertu d'un contrat. Impairing the obligations of contract. Du moment où un particulier croit voir qu'une loi de son État blesse un droit de cette espèce, il peut refuser d'obéir et en appeler à la justice fédérale. Cette disposition me paraît attaquer plus profondément que tout le reste la souveraineté des États. Les droits accordés au gouvernement fédéral, dans des buts évidemment nationaux, sont définis et faciles à comprendre. Ceux que lui concède indirectement l'article que je viens de citer ne tombent pas facilement sous le sens, et leurs limites ne sont pas nettement tracées. Il y a, en effet, une multitude de lois politiques qui réagissent sur l'existence des contrats, et qui pourraient ainsi fournir matière à un empiétement du pouvoir central. Manière de procéder des tribunaux fédéraux. J'ai fait connaître quels étaient les droits des cours fédérales. Il n'importe pas moins de savoir comment elles les exercent. La force irrésistible de la justice, dans les pays où la souveraineté n'est point partagée, vient de ce que les tribunaux, dans ces pays, représentent la nation tout entière en lutte avec le seul individu que l'arrêt a frappé. À l'idée du droit se joint l'idée de la force qui appuie le droit. Mais, dans les pays où la souveraineté est divisée, il n'en est pas toujours ainsi. La justice y trouve le plus souvent en face d'elle non un individu isolé, mais une fraction de la nation. Sa puissance morale et sa force matérielle en deviennent moins grandes. Dans les États fédéraux, la justice est donc naturellement plus faible et le justiciable plus fort. Le législateur, dans les confédérations, doit travailler sans cesse à donner aux tribunaux une place analogue à celle qu'ils occupent chez les peuples qui n'ont pas partagé la souveraineté. En d'autres termes, ces plus constants efforts doivent tendre à ce que la justice fédérale représente la nation et le justiciable un intérêt particulier. Un gouvernement, de quelque autre nature qu'il soit, a besoin d'agir sur les gouvernés, pour les forcer à lui rendre ce qui lui est dû. Il a besoin d'agir contre eux pour se défendre de leurs attaques. Quant à l'action directe du gouvernement sur les gouvernés, pour les forcer d'obéir aux lois, la Constitution des États-Unis fit en sorte, et ce fut là son chef-d'œuvre, que les cours fédérales, agissant au nom de ces lois, n'eussent jamais affaire qu'à des individus. En effet, comme on avait déclaré que la Confédération ne formait qu'un seul et même peuple dans le cercle tracé par la Constitution, il en résultait que le gouvernement créé par cette Constitution et agissant dans ses limites était revêtu de tous les droits d'un gouvernement national dont le principal est de faire parvenir ses injonctions sans intermédiaire jusqu'aux simples citoyens. Lors donc que l'Union ordonna la levée d'un impôt, par exemple, ce ne fut point aux États qu'elle dut s'adresser pour le percevoir, mais à chaque citoyen américain suivant sa cote. La justice fédérale, à son tour, chargée d'assurer l'exécution de cette loi de l'Union, eut à condamner non l'État récalcitrant, mais le contribuable. Comme la justice des autres peuples, elle ne trouva vis-à-vis d'elle qu'un individu. Remarquez qu'ici l'Union a choisi elle-même son adversaire, elle l'a choisi faible. Il est tout naturel qu'il succombe. mais quand l'Union, au lieu d'attaquer, en est réduite elle-même à se défendre, la difficulté augmente. La Constitution reconnaît aux États le pouvoir de faire des lois. Ces lois peuvent violer les droits de l'Union. Ici, nécessairement, on se trouve en lutte avec la souveraineté de l'État qui a fait la loi. Il ne reste plus qu'à choisir parmi les moyens d'action le moins dangereux. Ce moyen était indiqué d'avance par les principes généraux que j'ai précédemment énoncés. On conçoit que, dans le cas que je viens de supposer, l'Union aurait pu citer l'État devant un tribunal fédéral qui eût déclaré la loi nulle. C'eût été suivre la marche la plus naturelle des idées. Mais, de cette manière, la justice fédérale se serait trouvée directement en face d'un État, ce qu'on voulait, autant que possible, éviter. Les Américains ont pensé qu'il était presque impossible qu'une loi nouvelle ne lésât pas dans son exécution quelque intérêt particulier. C'est sur cet intérêt particulier que les auteurs de la Constitution fédérale se reposent pour attaquer la mesure législative dont l'Union peut avoir à se plaindre. C'est à lui qu'ils offrent un abri. Un État vend des terres à une compagnie. Un an après, une nouvelle loi dispose autrement des mêmes terres et viole ainsi cette partie de la Constitution qui défend de changer les droits acquis par un contrat. Lorsque celui qui a acheté en vertu de la nouvelle loi se présente pour entrer en possession, le possesseur qui tient ses droits de l'ancienne l'actionne devant les tribunaux de l'Union et fait déclarer son titre nul. Ainsi, en réalité, la justice fédérale se trouve aux prises avec la souveraineté de l'État, mais elle ne l'attaque qu'indirectement et sur une application de détail. Elle frappe ainsi la loi dans ses conséquences, non dans son principe. Elle ne la détruit pas, elle l'énerve. Restait enfin une dernière hypothèse. Chaque État formait une corporation qui avait une existence et des droits civils à part. Conséquemment, il pouvait actionner ou être actionné devant les tribunaux. Un État pouvait, par exemple, poursuivre en justice un autre État. Dans ce cas, il ne s'agissait plus pour l'Union d'attaquer une loi provinciale, mais de juger un procès dans lequel un État était parti. C'était un procès comme un autre. La qualité seule des plaideurs était différente. Ici, le danger signalé au commencement de ce chapitre existe encore. Mais cette fois, on ne saurait l'éviter. Il est inhérent à l'essence même des constitutions fédérales, dont le résultat sera toujours de créer au sein de la nation des particuliers assez puissants pour que la justice s'exerce contre eux avec peine. Rang élevé qu'occupe la Cour suprême parmi les grands pouvoirs de l'État. Quand, après avoir examiné en détail l'organisation de la Cour suprême, on arrive à considérer dans leur ensemble les attributions qui lui ont été données, on découvre sans peine que jamais un plus immense pouvoir judiciaire n'a été constitué chez aucun peuple. La Cour suprême est placée plus haut qu'aucun tribunal connu, et par la nature de ses droits et par l'espèce de ses justiciables. Chez toutes les nations policées de l'Europe, le gouvernement a toujours montré une grande répugnance à laisser la justice ordinaire trancher des questions qui l'intéressaient lui-même. Cette répugnance est naturellement plus grande lorsque le gouvernement est plus absolu. À mesure, au contraire, que la liberté augmente, le cercle des attributions des tribunaux va toujours en s'élargissant. Mais aucune des nations européennes n'a encore pensé que toute question judiciaire, quelle qu'en fût l'origine, pût être abandonnée aux juges du droit commun. En Amérique, on a mis cette théorie en pratique. La Cour suprême des États-Unis est le seul et unique tribunal de la nation. Elle est chargée de l'interprétation des lois et de celle des traités. Les questions relatives au commerce maritime et toutes celles en général qui se rattachent aux droits des gens sont de sa compétence exclusive. On peut même dire que ses attributions sont presque entièrement politiques, quoique sa constitution soit entièrement judiciaire. Son unique but est de faire exécuter les lois de l'Union, et l'Union ne règle que les rapports du gouvernement avec les gouvernés et de la nation avec les étrangers. Les rapports des citoyens entre eux sont presque tous régis par la souveraineté des États. À cette première cause d'importance, il faut en ajouter une autre plus grande encore. Chez les nations de l'Europe, les tribunaux n'ont que des particuliers pour justiciables. Mais on peut dire que la Cour suprême des États-Unis fait comparaître des souverains à sa barre. Lorsque l'huissier, s'avançant sur les degrés du tribunal, vient à prononcer ce peu de mots, l'État de New York contre celui de l'Ohio, on sent qu'on n'est point là dans l'enceinte d'une cour de justice ordinaire. Et quand on songe que l'un de ces plaideurs représente 1 million d'hommes et l'autre 2 millions, on s'étonne de la responsabilité qui pèse sur les 7 juges dont l'arrêt va réjouir ou attrister un si grand nombre de leurs concitoyens. Dans les mains des 7 juges fédéraux repose incessamment la paix, la prospérité, l'existence même de l'Union. Sans eux, la Constitution est une œuvre morte. C'est à eux qu'on appelle le pouvoir exécutif pour résister aux empiétements du corps législatif. La législature pour se défendre des entreprises du pouvoir exécutif, l'Union pour se faire obéir des États, les États pour repousser les prétentions exagérées de l'Union, l'intérêt public contre l'intérêt privé, l'esprit de conservation contre l'instabilité démocratique. Leur pouvoir est immense, mais c'est un pouvoir d'opinion. Ils sont tout-puissants tant que le peuple consent à obéir à la loi. Ils ne peuvent rien dès qu'ils la méprisent. Or, la puissance d'opinion est celle dont il est le plus difficile de faire usage, parce qu'il est impossible de dire exactement où sont ses limites. Il est souvent aussi dangereux de rester en deçà que de les dépasser. Les juges fédéraux ne doivent donc pas seulement être de bons citoyens, des hommes instruits et probes, qualité nécessaire à tout magistrat, il faut encore trouver en eux des hommes d'État. Il faut qu'ils sachent discerner l'esprit de leur temps, affronter les obstacles qu'on peut vaincre et se détourner du courant lorsque le flot menace d'emporter avec eux-mêmes la souveraineté de l'Union et l'obéissance due à ses lois. Le président peut faillir sans que l'État souffre, parce que le président n'a qu'un devoir borné. Le Congrès peut errer sans que l'Union périsse, parce qu'au-dessus du Congrès réside le corps électoral qui peut en changer l'esprit en changeant ses membres. Mais si la Cour suprême venait jamais à être composée d'hommes imprudents ou corrompus, la Confédération aurait à craindre l'anarchie ou la guerre civile. Du reste, qu'on ne s'y trompe point, la cause originaire du danger n'est point dans la constitution du tribunal, mais dans la nature même des gouvernements fédéraux. Nous avons vu que nulle part il n'est plus nécessaire de constituer fortement le pouvoir judiciaire que chez les peuples confédérés, parce que nulle part les existences individuelles qui peuvent lutter contre le corps social ne sont plus grandes et mieux en état de résister à l'emploi de la force matérielle du gouvernement. Or, plus il est nécessaire qu'un pouvoir soit fort, plus il faut lui donner d'étendue et d'indépendance. Plus un pouvoir est étendu et indépendant, et plus l'abus qu'on en peut faire est dangereux. L'origine du mal n'est donc point dans la constitution de ce pouvoir, mais dans la constitution même de l'État qui nécessite l'existence d'un pareil pouvoir. En quoi la Constitution fédérale est supérieure à la Constitution des États? La Constitution fédérale diffère essentiellement de la Constitution des États par le but qu'elle se propose, mais elle s'en rapproche beaucoup quant aux moyens d'atteindre ce but. L'objet du gouvernement est différent, mais les formes du gouvernement sont les mêmes. Sous ce point de vue spécial, on peut utilement les comparer. Je pense que la Constitution fédérale est supérieure à toutes les constitutions d'État. Cette supériorité tient à plusieurs causes. La Constitution actuelle de l'Union n'a été formée que postérieurement à celle de la plupart des États. On a donc pu profiter de l'expérience acquise. On se convaincra toutefois que cette cause n'est que secondaire si l'on songe que, depuis l'établissement de la Constitution fédérale, la Confédération américaine s'est accrue de 11 nouveaux États, et que ceux-ci ont presque toujours exagéré plutôt qu'atténué les défauts existants dans les constitutions de leurs devanciers. La grande cause de la supériorité de la Constitution fédérale est dans le caractère même des législateurs. À l'époque où elle fut formée, la ruine de la Confédération paraissait imminente. Elle était, pour ainsi dire, présente à tous les yeux. Dans cette extrémité, le peuple choisit, non pas peut-être les hommes qu'il aimait le mieux, mais ceux qu'il estimait le plus. J'ai déjà fait observer plus haut que les législateurs de l'Union avaient presque tous été remarquables par leur lumière, plus remarquables encore par leur patriotisme. Ils s'étaient tous élevés au milieu d'une crise sociale, pendant laquelle l'esprit de liberté avait eu continuellement à lutter contre une autorité forte et dominatrice. La lutte terminée, et tandis que, suivant l'usage, les passions excitées de la foule s'attachaient encore à combattre des dangers qui depuis longtemps n'existaient plus, eux s'étaient arrêtés. Ils avaient jeté un regard plus tranquille et plus pénétrant sur leur patrie. Ils avaient vu qu'une révolution définitive était accomplie et que désormais les périls qui menaçaient le peuple ne pouvaient naître que des abus de la liberté. Ce qu'ils pensaient, ils eurent le courage de le dire, parce qu'ils sentaient au fond de leur cœur un amour sincère et ardent pour cette même liberté. Ils osèrent parler de la restreindre, parce qu'ils étaient sûrs de ne pas vouloir la détruire. La plupart des constitutions d'État ne donnent au mandat de la Chambre des représentants qu'un an de durée, et deux à celui du Sénat, de telle sorte que les membres du corps législatif sont liés sans cesse et de la manière la plus étroite au moindre désir de leurs constituants. Les législateurs de l'Union pensèrent que cette extrême dépendance de la législature dénaturait les principaux effets du système représentatif en plaçant dans le peuple lui-même non seulement l'origine des pouvoirs, mais encore le gouvernement. Ils accrurent la durée du mandat électoral pour laisser aux députés un plus grand emploi de son libre arbitre. La Constitution fédérale, comme les différentes constitutions d'État, divisa le corps législatif en deux branches. Mais, dans les États, on composa ces deux parties de la législature des mêmes éléments et suivant le même mode d'élection. Il en résulta que les passions et les volontés de la majorité se firent jour avec la même facilité et trouvèrent aussi rapidement un organe et un instrument dans l'une que dans l'autre chambre, ce qui donna un caractère violent et précipité à la formation des lois. La Constitution fédérale fit aussi sortir les deux chambres des votes du peuple, mais elle varia les conditions d'éligibilité et le mode d'élection, afin que si, comme chez certaines nations, l'une des deux branches de la législature ne représentait pas des intérêts différents de l'autre, elle représentât au moins une sagesse supérieure. Il fallut avoir atteint un âge mûr pour être sénateur, et ce fut une assemblée déjà choisie elle-même et peu nombreuse qui fut chargée d'élire. Les démocraties sont naturellement portées à concentrer toute la force sociale dans les mains du corps législatif. Celui-ci étant le pouvoir qui émane le plus directement du peuple, est aussi celui qui participe le plus de sa toute-puissance. On remarque donc en lui une tendance habituelle qui le porte à réunir toute espèce d'autorité dans son sein. Cette concentration des pouvoirs, en même temps qu'elle nuit singulièrement à la bonne conduite des affaires, fonde le despotisme de la majorité. Les législateurs des États se sont fréquemment abandonnés à ces instincts de la démocratie. Ceux de l'Union ont toujours courageusement lutté contre eux. Dans les États, le pouvoir exécutif est remis aux mains d'un magistrat placé en apparence à côté de la législature, mais qui, en réalité, n'est qu'un agent aveugle et un instrument passif de ses volontés. Où puiserait-il sa force ? Dans la durée des fonctions, il n'est en général nommé que pour une année. Dans ses prérogatives, il n'en a point pour ainsi dire. La législature peut le réduire à l'impuissance, en chargeant de l'exécution de ses lois des commissions spéciales prises dans son sein. Si elle le voulait, elle pourrait en quelque sorte l'annuler en lui retranchant son traitement. La Constitution fédérale a concentré tous les droits du pouvoir exécutif, comme toute sa responsabilité, sur un seul homme. Elle a donné au président 4 ans d'existence. Elle lui a assuré, pendant toute la durée de sa magistrature, la jouissance de son traitement. Elle lui a composé une clientèle et l'a armé d'un veto suspensif. En un mot, après avoir soigneusement tracé la sphère du pouvoir exécutif, elle a cherché à lui donner autant que possible dans cette sphère une position forte et libre. Le pouvoir judiciaire est, de tous les pouvoirs, celui qui, dans les constitutions d'État, est resté le moins dépendant de la puissance législative. Toutefois, dans tous les États, la législature est demeurée maîtresse de fixer les émoluments des juges, ce qui soumet nécessairement ces derniers à son influence immédiate. Dans certains États, les juges ne sont nommés que pour un temps, ce qui leur ôte encore une grande partie de leur force et de leur liberté. Dans d'autres, on voit les pouvoirs législatifs et judiciaires entièrement confondus. Le Sénat de New York, par exemple, forme pour certains procès le tribunal supérieur de l'État. La Constitution fédérale a pris soin, au contraire, de séparer le pouvoir judiciaire de tous les autres. Elle a, de plus, rendu les juges indépendants en déclarant leur traitement fixe et leurs fonctions irrévocables. Les conséquences pratiques de ces différences sont faciles à apercevoir. Il est évident, pour tout observateur attentif, que les affaires de l'Union sont infiniment mieux conduites que les affaires particulières d'aucun État. Le gouvernement fédéral est plus juste et plus modéré dans sa marche que celui des États. Il y a plus de sagesse dans ses vues, plus de durée et de combinaisons savantes dans ses projets, plus d'habileté de suite et de fermeté dans l'exécution de ses mesures. Peu de mots suffisent pour résumer ce chapitre. 2 dangers principaux menacent l'existence des démocraties. L'asservissement complet du pouvoir législatif aux volontés du corps électoral, la concentration dans le pouvoir législatif de tous les autres pouvoirs du gouvernement. Les législateurs des États ont favorisé le développement de ces dangers. Les législateurs de l'Union ont fait ce qu'ils ont pu pour les rendre moins redoutables. Ceux qui distinguent la Constitution fédérale des États-Unis d'Amérique de toutes les autres constitutions fédérales. les États-Unis d'Amérique n'ont pas donné le premier et unique exemple d'une confédération. Sans parler de l'Antiquité, l'Europe moderne en a fourni plusieurs. La Suisse, l'Empire germanique, la République des Pays-Bas ont été ou sont encore des confédérations. Quand on étudie les constitutions de ces différents pays, on remarque avec surprise que les pouvoirs conférés par elles au gouvernement fédéral sont à peu près les mêmes que ceux accordés par la Constitution américaine au gouvernement des États-Unis. Comme cette dernière, elles donnent à la puissance centrale le droit de faire la paix et la guerre, le droit de lever les hommes et l'argent, de pourvoir aux besoins généraux et de régler les intérêts communs de la nation. Cependant, le gouvernement fédéral, chez ces différents peuples, est presque toujours resté débile et impuissant, tandis que celui de l'Union conduit les affaires avec vigueur et facilité. Il y a plus. La première Union américaine n'a pas pu subsister à cause de l'excessive faiblesse de son gouvernement, et pourtant ce gouvernement si faible avait reçu des droits aussi étendus que le gouvernement fédéral de nos jours. On peut même dire qu'à certains égards, ses privilèges étaient plus grands. Il se trouve donc dans la Constitution actuelle des États-Unis quelques principes nouveaux qui ne frappent point d'abord, mais dont l'influence se fait profondément sentir. Cette Constitution, qu'à la première vue on est tenté de confondre avec les constitutions fédérales qui l'ont précédée, repose en effet sur une théorie entièrement nouvelle et qui doit marquer comme une grande découverte dans la science politique de nos jours. Dans toutes les confédérations qui ont précédé la Confédération américaine de 1789, les peuples qui s'alliaient dans un but commun consentaient à obéir aux injonctions d'un gouvernement fédéral. Mais ils gardaient le droit d'ordonner et de surveiller chez eux l'exécution des lois de l'Union. Les États américains qui s'unirent en 1789 ont non seulement consenti à ce que le gouvernement fédéral leur dictât des lois, mais encore à ce qu'il fît exécuter lui-même ces lois. Dans les deux cas, le droit est le même. L'exercice seul du droit est différent. Mais cette seule différence produit d'immenses résultats. Dans toutes les confédérations qui ont précédé l'Union américaine de nos jours, le gouvernement fédéral, afin de pourvoir à ses besoins, s'adressait au gouvernement particulier. Dans le cas où la mesure prescrite déplaisait à l'un d'eux, ce dernier pouvait toujours se soustraire à la nécessité d'obéir. S'il était fort, il en appelait aux armes. S'il était faible, il tolérait la résistance aux lois de l'Union devenues les siennes, prétextait l'impuissance et recourait à la force d'inertie. Aussi a-t-on constamment vu arriver l'une de ces deux choses. Le plus puissant des peuples unis, prenant en main les droits de l'autorité fédérale, a dominé tous les autres en son nom. Où le gouvernement fédéral est resté abandonné à ses propres forces, et alors l'anarchie s'est établie parmi les confédérés et l'Union est tombée dans l'impuissance d'agir. En Amérique, l'Union a pour gouverner non des États, mais de simples citoyens. Quand elle veut lever une taxe, elle ne s'adresse pas au gouvernement du Massachusetts, mais à chaque habitant du Massachusetts. Les anciens gouvernements fédéraux avaient en face d'eux des peuples, celui de l'Union à des individus. Ils n'empruntent point sa force, mais ils la puisent en lui-même. Il a ses administrateurs à lui, ses tribunaux, ses officiers de justice et son armée. Sans doute l'esprit national, les passions collectives, les préjugés provinciaux de chaque État tendent encore singulièrement à diminuer l'étendue du pouvoir fédéral ainsi constitué et à créer des centres de résistance à ses volontés. Restreint dans sa souveraineté, il ne saurait être aussi fort que celui qui la possède tout entière. Mais c'est là, un mal inhérent au système fédératif. En Amérique, chaque État a beaucoup moins d'occasions et de tentations de résister. Et si la pensée lui en vient, il ne peut la mettre à exécution qu'en violant ouvertement les lois de l'Union, en interrompant le cours ordinaire de la justice, en levant l'étendard de la révolte. Il lui faut, en un mot, prendre tout d'un coup un parti extrême, ce que les hommes hésitent longtemps à faire. Dans les anciennes confédérations, les droits accordés à l'Union étaient pour elle des causes de guerre et non de puissance, puisque ces droits multipliaient ses exigences sans augmenter ses moyens de se faire obéir. Aussi a-t-on presque toujours vu la faiblesse réelle des gouvernements fédéraux croître en raison directe de leur pouvoir nominal. Il n'en est pas ainsi dans l'Union américaine. Comme la plupart des gouvernements ordinaires, le gouvernement fédéral peut faire tout ce qu'on lui donne le droit d'exécuter. L'esprit humain invente plus facilement les choses que les mots. De là vient l'usage de tant de termes impropres et d'expressions incomplètes. Plusieurs nations forment une ligne permanente et établissent une autorité suprême qui, sans avoir action sur les simples citoyens, comme pourrait le faire un gouvernement national, a cependant action sur chacun des peuples confédérés pris en corps. Ce gouvernement, si différent de tous les autres, reçoit le nom de fédéral. On découvre ensuite une forme de société dans laquelle plusieurs peuples se fondent réellement en un seul quant à certains intérêts communs et restent séparés et seulement confédérés pour tous les autres. Ici, le pouvoir central agit sans intermédiaire sur les gouvernés, les administre et les juge lui-même, comme le font les gouvernements nationaux, mais il n'agit ainsi que dans un cercle restreint. Évidemment, ce n'est plus là un gouvernement fédéral, c'est un gouvernement national incomplet. Ainsi, on a trouvé une forme de gouvernement qui n'était précisément ni national ni fédéral. Mais on s'est arrêté là, et le mot nouveau qui doit exprimer la chose nouvelle n'existe point encore. C'est pour n'avoir pas connu cette nouvelle espèce de confédération que toutes les unions sont arrivées à la guerre civile, à l'asservissement ou à l'inertie. Les peuples qui les composaient ont tous manqué de lumière pour voir le remède à leurs maux ou de courage pour l'appliquer. La première union américaine était aussi tombée dans les mêmes défauts, mais en Amérique, les États confédérés, avant d'arriver à l'indépendance, avaient longtemps fait partie du même empire. Ils n'avaient donc point encore contracté l'habitude de se gouverner complètement eux-mêmes, et les préjugés nationaux n'avaient pu jeter de profondes racines. Plus éclairés que le reste du monde, ils étaient entre eux égaux en lumière. Ils ne sentaient que faiblement les passions qui, d'ordinaire, s'opposent chez les peuples à l'extension du pouvoir fédéral, et ces passions étaient combattues par les plus grands citoyens. Les Américains, en même temps qu'ils sentirent le mal, envisagèrent avec fermeté le remède. Ils corrigèrent leurs lois et sauvèrent le pays. Des avantages du système fédératif en général et de son utilité spéciale pour l'Amérique. Chez les petites nations, l'œil de la société pénètre partout. L'esprit d'amélioration descend jusque dans les moindres détails. L'ambition du peuple étant fort tempérée par sa faiblesse, ses efforts et ses ressources se tournent presque entièrement vers son bien-être intérieur et ne sont point sujets à se dissiper en vaines fumées de gloire. De plus, les facultés de chacun y étant généralement bornées, les désirs le sont également. La médiocrité des fortunes y rend les conditions à peu près égales. les mœurs y ont une allure simple et paisible. Ainsi, à tout prendre et en faisant état des divers degrés de moralité et de lumière, on rencontre ordinairement chez les petites nations plus d'aisance de population et de tranquillité que chez les grandes. Lorsque la tyrannie vient à s'établir dans le sein d'une petite nation, elle y est plus incommode que partout ailleurs, parce qu'agissant dans un cercle plus restreint, elle s'étend à tout dans ce cercle. Ne pouvant se prendre à quelque grand objet, elle s'occupe d'une multitude de petits. Elle se montre à la fois violente et tracassière. Du monde politique, qui est, à proprement parler, son domaine, elle pénètre dans la vie privée. Après les actions, elle aspire à régenter les goûts. Après l'État, elle veut gouverner les familles. Mais cela arrive rarement. La liberté forme, à vrai dire, la condition naturelle des petites sociétés. Le gouvernement y offre trop peu d'appât à l'ambition, les ressources des particuliers y sont trop bornées pour que le souverain pouvoir s'y concentre aisément dans les mains d'un seul. Le cas arrivant, il n'est pas difficile aux gouvernés de s'unir et par un effort commun de renverser en même temps le tyran et la tyrannie. Les petites nations ont donc été de tout temps le berceau de la liberté politique. Il est arrivé que la plupart d'entre elles ont perdu cette liberté en grandissant. Ce qui fait bien voir qu'elles tenaient à la petitesse du peuple et non au peuple lui-même. L'histoire du monde ne fournit pas d'exemple d'une grande nation qui soit restée longtemps en république. Ce qui a fait dire que la chose était impraticable. Pour moi, je pense qu'il est bien imprudent à l'homme de vouloir borner le possible et juger l'avenir, lui auquel le réel et le présent échappent tous les jours et qui se trouve sans cesse surpris à l'improviste dans les choses qu'il connaît le mieux. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que l'existence d'une grande république sera toujours infiniment plus exposée que celle d'une petite. Toutes les passions fatales aux républiques grandissent avec l'étendue du territoire, tandis que les vertus qui leur servent d'appui ne s'accroissent point suivant la même mesure. L'ambition des particuliers augmente avec la puissance de l'État, la force des partis avec l'importance du but qu'ils se proposent, mais l'amour de la patrie, qui doit lutter contre ces passions destructives, n'est pas plus fort dans une vaste république que dans une petite. Il serait même facile de prouver qu'il y est moins développé et moins puissant. Les grandes richesses et les profondes misères, les métropoles, la dépravation des mœurs, l'égoïsme individuel, la complication des intérêts, sont autant de périls qui naissent presque toujours de la grandeur de l'État. Plusieurs de ces choses ne nuisent point à l'existence d'une monarchie. Quelques-unes même peuvent concourir à sa durée. D'ailleurs, dans les monarchies, le gouvernement a une force qui lui est propre. Il se sert du peuple et ne dépend pas de lui. Plus le peuple est grand, plus le prince est fort. Mais le gouvernement républicain ne peut opposer à ces dangers que l'appui de la majorité. Or, cet élément de force n'est pas plus puissant, proportion gardée, dans une vaste république que dans une petite. Ainsi, tandis que les moyens d'attaque augmentent sans cesse de nombre et de pouvoir, la force de résistance reste la même. On peut même dire qu'elle diminue, car plus le peuple est nombreux et plus la nature des esprits et des intérêts se diversifie, plus par conséquent il est difficile de former une majorité compacte. On a pu remarquer d'ailleurs que les passions humaines acquéraient de l'intensité, non seulement par la grandeur du but qu'elles veulent atteindre, mais aussi par la multitude d'individus qui les ressentent en même temps. Il n'est personne qui ne se soit trouvé plus ému au milieu d'une grande foule agitée qui partageait son émotion que s'il eût été seul à l'éprouver. Dans une grande république, les passions politiques deviennent irrésistibles, non seulement parce que l'objet qu'elles poursuivent est immense, mais encore parce que des millions d'hommes les ressentent de la même manière et dans le même moment. Il est donc permis de dire d'une manière générale que rien n'est si contraire au bien-être et à la liberté des hommes que les grands empires. Les grands États ont cependant des avantages qui leur sont particuliers et qu'il faut reconnaître. De même que le désir du pouvoir est plus ardent qu'ailleurs parmi les hommes vulgaires, l'amour de la gloire y est aussi plus développé chez certaines âmes qui trouvent dans les applaudissements d'un grand peuple un objet digne de leurs efforts et propre à les élever en quelque sorte au-dessus d'elles-mêmes. La pensée y reçoit en toute chose une impulsion plus rapide et plus puissante. Les idées y circulent plus librement. Les métropoles y sont comme de vastes centres intellectuels où viennent resplendir et se combiner tous les rayons de l'esprit humain. Ce fait nous explique pourquoi les grandes nations font faire aux Lumières et à la cause générale de la civilisation des progrès plus rapides que les petites. Il faut ajouter que les découvertes importantes exigent souvent un développement de forces nationales dont le gouvernement d'un petit peuple est incapable. Chez les grandes nations, le gouvernement a plus d'idées générales, il se dégage plus complètement de la routine des antécédents et de l'égoïsme des localités. Il y a plus de génie dans ses conceptions, plus de hardiesse dans ses allures. Le bien-être intérieur est plus complet et plus répandu chez les petites nations, tant qu'elles se maintiennent en paix. Mais l'état de guerre leur est plus nuisible qu'aux grandes. Chez celles-ci, l'éloignement des frontières permet quelquefois à la masse du peuple de rester pendant des siècles éloignée du danger. Pour elles, la guerre est plutôt une cause de malaise que de ruine. Il se présente d'ailleurs en cette matière comme en beaucoup d'autres, une considération qui domine tout le reste, c'est celle de la nécessité. S'il n'y avait que de petites nations et point de grandes, l'humanité serait à coup sûr plus libre et plus heureuse. Mais on ne peut faire qu'il n'y ait pas de grandes nations. Ceci introduit dans le monde un nouvel élément de prospérité nationale qu'est la force. Qu'importe qu'un peuple présente l'image de l'aisance et de la liberté, s'il se voit exposé chaque jour à être ravagé ou conquis. Qu'importe qu'il soit manufacturier et commerçant, si un autre domine les mers et fait la loi sur tous les marchés. Les petites nations sont souvent misérables, non point parce qu'elles sont petites, mais parce qu'elles sont faibles. Les grandes prospèrent, non point parce qu'elles sont grandes, mais parce qu'elles sont fortes. La force est donc souvent pour les nations une des premières conditions du bonheur et même de l'existence. De là vient qu'à moins de circonstances particulières, les petits peuples finissent toujours par être réunis violemment aux grands ou par s'y réunir d'eux-mêmes. Je ne sache pas de condition plus déplorable que celle d'un peuple qui ne peut se défendre ni se suffire. C'est pour unir les avantages divers qui résultent de la grandeur et de la petitesse des nations que le système fédératif a été créé. Il suffit de jeter un regard sur les États-Unis d'Amérique pour apercevoir tous les biens qui découlent pour eux de l'adoption de ce système. Chez les grandes nations centralisées, le législateur est obligé de donner aux lois un caractère uniforme que ne comporte pas la diversité des lieux et des mœurs. N'étant jamais instruit des cas particuliers, il ne peut procéder que par des règles générales. Les hommes sont alors obligés de se plier aux nécessités de la législation, car la législation ne sait point s'accommoder aux besoins et aux mœurs des hommes, ce qui est une grande cause de troubles et de misère. Cet inconvénient n'existe pas dans les confédérations. Le Congrès règle les principaux actes de l'existence sociale. Tout le détail en est abandonné aux législations provinciales. On ne saurait se figurer à quel point cette division de la souveraineté sert au bien-être de chacun des États dont l'Union se compose. Dans ces petites sociétés que ne préoccupe point le soin de se défendre ou de s'agrandir, toute la puissance publique et toute l'énergie individuelle sont tournées du côté des améliorations intérieures. Le gouvernement central de chaque État étant placé tout à côté des gouvernés est journellement averti des besoins qui se font sentir. Aussi voit-on présenter chaque année de nouveaux plans qui, discutés dans les assemblées communales ou devant la législature de l'État, et reproduits ensuite par la presse, excitent l'intérêt universel et le zèle des citoyens. Ce besoin d'améliorer agite sans cesse les républiques américaines et ne les trouble pas. L'ambition du pouvoir y laisse la place à l'amour du bien-être, passion plus vulgaire mais moins dangereuse. C'est une opinion généralement répandue en Amérique que l'existence et la durée des formes républicaines dans le Nouveau Monde dépendent de l'existence et de la durée du système fédératif. On attribue une grande partie des misères dans lesquelles sont plongés les nouveaux États de l'Amérique du Sud à ce qu'on a voulu y établir de grandes républiques au lieu d'y fractionner la souveraineté. Il est incontestable, en effet, qu'aux États-Unis le goût et l'usage du gouvernement républicain sont nés dans les communes et au sein des assemblées provinciales. Chez une petite nation comme le Connecticut, par exemple, où la grande affaire politique est l'ouverture d'un canal et le tracé d'un chemin, où l'État n'a point d'armée à payer ni de guerre à soutenir, et ne saurait donner à ceux qui le dirigent ni beaucoup de richesses ni beaucoup de gloire, on ne peut rien imaginer de plus naturel et de mieux approprié à la nature des choses que la République. Or, c'est ce même esprit républicain, ce sont ces mœurs et ces habitudes d'un peuple libre qui, après avoir pris naissance et s'être développé dans les divers États, s'appliquent ensuite sans peine à l'ensemble du pays. L'esprit public de l'Union n'est en quelque sorte lui-même qu'un résumé du patriotisme provincial. Chaque citoyen des États-Unis transporte pour ainsi dire l'intérêt que lui inspire sa petite République dans l'amour de la patrie commune. En défendant l'Union, il défend la prospérité croissante de son canton, le droit d'en diriger les affaires et l'espérance d'y faire prévaloir des plans d'amélioration qui doivent l'enrichir lui-même, toute chose qui, pour l'ordinaire, touche plus les hommes que les intérêts généraux du pays et la gloire de la nation. D'un autre côté, si l'esprit et les mœurs des habitants les rendent plus propres que d'autres à faire prospérer une grande république, le système fédératif a rendu la tâche bien moins difficile. La confédération de tous les États américains ne présente pas les inconvénients ordinaires des nombreuses agglomérations d'hommes. L'Union est une grande république quant à l'étendue, mais on pourrait en quelque sorte l'assimiler à une petite république, à cause du peu d'objets dont s'occupe son gouvernement. Ses actes sont importants, mais ils sont rares. Comme la souveraineté de l'Union est gênée et incomplète, l'usage de cette souveraineté n'est point dangereux pour la liberté. Il n'excite pas non plus ces désirs immodérés de pouvoir et de bruit qui sont si funestes aux grandes républiques. Comme tout n'y vient point aboutir nécessairement à un centre commun, on n'y voit ni vaste métropole, ni richesses immenses, ni grande misère, ni subite révolution. Les passions politiques, au lieu de s'étendre en un instant comme une nappe de feu sur toute la surface du pays, vont se briser contre les intérêts et les passions individuelles de chaque État. Dans l'Union, cependant, comme chez un seul et même peuple, circulent librement les choses et les idées. Rien n'y arrête l'essor de l'esprit d'entreprise. Son gouvernement appelle à lui les talents et les lumières. En dedans des frontières de l'Union règne une paix profonde, comme dans l'intérieur d'un pays soumis au même empire. En dehors, Elle prend rang parmi les plus puissantes nations de la terre. Elle offre au commerce étranger plus de 800 lieues de rivage. Et tenant dans ses mains les clés de tout un monde, elle fait respecter son pavillon jusqu'aux extrémités des mers. L'Union est libre et heureuse comme une petite nation, glorieuse et forte comme une grande. Ce qui fait que le système fédéral n'est pas à la portée de tous les peuples est ce qui a permis aux Anglo-Américains de l'adopter. Le législateur parvient quelquefois, après 1000 efforts, à exercer une influence indirecte sur la destinée des nations, et alors on célèbre son génie, tandis que souvent la position géographique du pays, sur laquelle il ne peut rien, un état social qui s'est créé sans son concours, des mœurs et des idées dont il ignore l'origine, un point de départ qu'il ne connaît pas, impriment à la société des mouvements irrésistibles contre lesquels il lutte en vain et qui l'entraînent à son tour. Le législateur ressemble à l'homme qui trace sa route au milieu des mers. Il peut aussi diriger le vaisseau qui le porte, mais il ne saurait en changer la structure, créer les vents, ni empêcher l'océan de se soulever sous ses pieds. J'ai montré quels avantages les Américains retirent du système fédéral. Il me reste à faire comprendre ce qui leur a permis d'adopter ce système, car il n'est pas donné à tous les peuples de jouir de ses bienfaits. On trouve dans le système fédéral des vices accidentels naissant des lois. Ceux-là peuvent être corrigés par les législateurs. On en rencontre d'autres qui, étant inhérents au système, ne sauraient être détruits par les peuples qui l'adoptent. Il faut donc que ces peuples trouvent en eux-mêmes la force nécessaire pour supporter les imperfections naturelles de leur gouvernement. Parmi les vices inhérents à tout système fédéral, le plus visible de tous est la complication des moyens qu'il emploie. Ce système met nécessairement en présence deux souverainetés. Le législateur parvient à rendre les mouvements de ces deux souverainetés aussi simples et aussi égaux que possible, et peut les renfermer toutes les deux dans des sphères d'action nettement tracées. Mais il ne saurait faire qu'il n'y en ait qu'une, ni empêcher qu'elle ne se touche en quelque endroit. Le système fédératif repose donc, quoi qu'on fasse, sur une théorie compliquée, dont l'application exige dans les gouvernés un usage journalier des lumières de leur raison. Il n'y a en général que les conceptions simples qui s'emparent de l'esprit du peuple. Une idée fausse, mais claire et précise, aura toujours plus de puissance dans le monde qu'une idée vraie, mais complexe. De là vient que les partis, qui sont comme de petites nations dans une grande, se hâtent toujours d'adopter pour symbole un nom ou un principe qui, souvent, ne représentent que très incomplètement le but qu'ils se proposent et les moyens qu'ils emploient, mais sans lequel ils ne pourraient subsister ni se mouvoir. Les gouvernements qui ne reposent que sur une seule idée ou sur un seul sentiment facile à définir ne sont peut-être pas les meilleurs, mais ils sont à coup sûr les plus forts et les plus durables. Lorsqu'on examine la Constitution des États-Unis, la plus parfaite de toutes les constitutions fédérales connues, on est effrayé au contraire de la multitude de connaissances diverses et du discernement qu'elle suppose chez ceux qu'elle doit régir. Le gouvernement de l'Union repose presque tout entier sur des fictions légales. L'Union est une nation idéale qui n'existe pour ainsi dire que dans les esprits, et dont l'intelligence seule découvre l'étendue et les bornes. La théorie générale étant bien comprise, restent les difficultés d'application. Elles sont sans nombre, car la souveraineté de l'Union est tellement engagée dans celle des États qu'il est impossible au premier coup d'œil d'apercevoir leurs limites. Tout est conventionnel et artificiel dans un pareil gouvernement, et il ne saurait convenir qu'à un peuple habitué depuis longtemps à diriger lui-même ses affaires et chez lequel la science politique est descendue jusque dans les derniers rangs de la société. Je n'ai jamais plus admiré le bon sens et l'intelligence pratique des Américains que dans la manière dont ils échappent aux difficultés sans nombre qui naissent de leur constitution fédérale. Je n'ai presque jamais rencontré d'homme du peuple en Amérique qui ne discernât avec une surprenante facilité les obligations nées des lois du Congrès et celles dont l'origine est dans les lois de son État, et qui, après avoir distingué les objets placés dans les attributions générales de l'Union de ceux que la législature locale doit régler, ne put indiquer le point où commence la compétence des cours fédérales et la limite où s'arrête celle des tribunaux de l'État. La Constitution des États-Unis ressemble à ces belles créations de l'industrie humaine qui comblent de gloire et de bien ceux qui les inventent, mais qui restent stériles en d'autres mains. C'est ce que le Mexique a fait voir de nos jours. Les habitants du Mexique, voulant établir le système fédératif, prirent pour modèle et copièrent presque entièrement la Constitution fédérale des Anglo-Américains, leurs voisins. Mais en transportant chez eux la lettre de la loi, ils ne purent transporter en même temps l'esprit qui la vivifie. On les vit donc s'embarrasser sans cesse parmi les rouages de leur double gouvernement. La souveraineté des États et celle de l'Union, sortant du cercle que la Constitution avait tracé, pénétrèrent chaque jour l'une dans l'autre. Actuellement encore, le Mexique est sans cesse entraîné de l'anarchie au despotisme militaire et du despotisme militaire à l'anarchie. Le second est le plus funeste de tous les vices, que je regarde comme inhérent au système fédéral lui-même, c'est la faiblesse relative du gouvernement de l'Union. Le principe sur lequel reposent toutes les confédérations est le fractionnement de la souveraineté. Les législateurs rendent ce fractionnement peu sensible. Ils le dérobent même pour un temps au regard, mais ils ne sauraient faire qu'il n'existe pas. Or, une souveraineté fractionnée sera toujours plus faible qu'une souveraineté complète. On a vu, dans l'exposé de la Constitution des États-Unis, avec quel art les Américains, tout en renfermant le pouvoir de l'Union dans le cercle restreint des gouvernements fédéraux, sont cependant parvenus à lui donner l'apparence et, jusqu'à un certain point, la force d'un gouvernement national. En agissant ainsi, les législateurs de l'Union ont diminué le danger naturel des confédérations, mais ils n'ont pu le faire disparaître entièrement. Le gouvernement américain, dit-on, ne s'adresse point aux États. Il fait parvenir immédiatement ses injonctions jusqu'aux citoyens et les plie isolément sous l'effort de la volonté commune. Mais si la loi fédérale heurtait violemment les intérêts et les préjugés d'un État, ne doit-on pas craindre que chacun des citoyens de cet État ne se crût intéressé dans la cause de l'homme qui refuse d'obéir ? Tous les citoyens de l'État, se trouvant ainsi lésés en même temps et de la même manière, par l'autorité de l'Union, en vain le gouvernement fédéral chercherait-il à les isoler pour les combattre ? Ils sentiraient instinctivement qu'ils doivent s'unir pour se défendre, et ils trouveraient une organisation toute préparée dans la portion de souveraineté dont on a laissé jouir leur État. La fiction disparaîtrait alors pour faire place à la réalité, et l'on pourrait voir la puissance organisée d'une partie du territoire en lutte avec l'autorité centrale. J'en dirais autant de la justice fédérale. Si, dans un procès particulier, les tribunaux de l'Union violaient une loi importante d'un État, la lutte, sinon apparente, au moins réelle, serait entre l'État lésé représenté par un citoyen et l'Union représentée par ses tribunaux. Il faut avoir bien peu d'expérience des choses de ce monde pour s'imaginer qu'après avoir laissé aux passions des hommes un moyen de se satisfaire, on les empêchera toujours à l'aide de fictions légales de l'apercevoir et de s'en servir. Les législateurs américains, en rendant moins probable la lutte entre les deux souverainetés, n'en ont donc pas détruit les causes. On peut même aller plus loin et dire qu'ils n'ont pu, en cas de lutte, assurer au pouvoir fédéral la prépondérance. Ils donnèrent à l'Union de l'argent et des soldats, mais les États gardèrent l'amour et les préjugés des peuples. La souveraineté de l'Union est un être abstrait qui ne se rattache qu'à un petit nombre d'objets extérieurs. La souveraineté des États tombe sous tous les sens, on la comprend sans peine. On la voit agir à chaque instant. L'une est nouvelle, l'autre est née avec le peuple lui-même. La souveraineté de l'Union est l'œuvre de l'art. La souveraineté des États est naturelle. Elle existe par elle-même, sans effort, comme l'autorité du père de famille. La souveraineté de l'Union ne touche les hommes que par quelques grands intérêts. Elle représente une patrie immense, éloignée, un sentiment vague et indéfini. La souveraineté des États enveloppe chaque citoyen, en quelque sorte, et le prend chaque jour en détail. C'est elle qui se charge de garantir sa propriété, sa liberté, sa vie. Elle influe à tout moment sur son bien-être ou sa misère. La souveraineté des États s'appuie sur les souvenirs, sur les habitudes, sur les préjugés locaux, sur l'égoïsme de province et de famille, en un mot, sur toutes les choses qui rendent l'instinct de la patrie si puissant dans le cœur de l'homme. Comment douter de ses avantages ? Puisque les législateurs ne peuvent empêcher qu'ils ne surviennent entre les deux souverainetés que le système fédéral met en présence, des collisions dangereuses, il faut donc qu'à leurs efforts pour détourner les peuples confédérés de la guerre, ils se joignent des dispositions particulières qui portent ceux-ci à la paix. Il résulte de là que le pacte fédéral ne saurait avoir une longue existence s'il ne rencontre dans les peuples auxquels il s'applique un certain nombre de conditions d'union qui leur rendent aisée cette vie commune et facilitent la tâche du gouvernement. Ainsi, le système fédéral, pour réussir, n'a pas seulement besoin de bonnes lois, il faut encore que les circonstances le favorisent. Tous les peuples qu'on a vus se confédérer avaient un certain nombre d'intérêts communs qui formaient comme les liens intellectuels de l'association. Mais outre les intérêts matériels, l'homme a encore des idées et des sentiments. Pour qu'une confédération subsiste longtemps, il n'est pas moins nécessaire qu'il y ait homogénéité dans la civilisation que dans les besoins des divers peuples qui la composent. Entre la civilisation du canton de Vaud et celle du canton d'Uri, il y a comme du XIXe siècle au XVe. Aussi la Suisse n'a-t-elle jamais eu, à vrai dire, de gouvernement fédéral. L'union entre ces différents cantons n'existe que sur la carte. Et l'on s'en apercevrait bien si une autorité centrale voulait appliquer les mêmes lois à tout le territoire. Il y a un fait qui facilite admirablement aux États-Unis l'existence du gouvernement fédéral. Les différents États ont non seulement les mêmes intérêts à peu près, la même origine et la même langue, mais encore le même degré de civilisation, ce qui rend presque toujours l'accord entre eux chose facile. Je ne sais s'il y a si petite nation européenne qui ne présente un aspect moins homogène dans ses différentes parties que le peuple américain, dont le territoire est aussi grand que la moitié de l'Europe. De l'état du Maine à l'état de Géorgie, on compte environ 400 lieues. Il existe cependant moins de différence entre la civilisation du Maine et celle de la Géorgie qu'entre la civilisation de la Normandie et celle de la Bretagne. Le Maine et la Géorgie, placés aux deux extrémités d'un vaste empire, trouvent donc naturellement plus de facilité réelle à former une confédération que la Normandie et la Bretagne qui ne sont séparées que par un ruisseau. À ces facilités que les mœurs et les habitudes du peuple offraient aux législateurs américains, s'en joignaient d'autres qui naissaient de la position géographique du pays. Il faut principalement attribuer à ces dernières l'adoption et le maintien du système fédéral. Le plus important de tous les actes qui peuvent signaler la vie d'un peuple, c'est la guerre. Dans la guerre, un peuple agit comme un seul individu vis-à-vis des peuples étrangers. Il lutte pour son existence même. Tant qu'il n'est question que de maintenir la paix dans l'intérieur d'un pays et de favoriser sa prospérité, l'habileté dans le gouvernement, la raison dans les gouvernés et un certain attachement naturel que les hommes ont presque toujours pour leur patrie peuvent aisément suffire. Mais pour qu'une nation se trouve en état de faire une grande guerre, les citoyens doivent s'imposer des sacrifices nombreux et pénibles. Croire qu'un grand nombre d'hommes seront capables de se soumettre d'eux-mêmes à de pareilles exigences sociales, c'est bien mal connaître l'humanité. De là vient que tous les peuples qui ont eu à faire de grandes guerres ont été amenés, presque malgré eux, à accroître les forces du gouvernement. Ceux qui n'ont pas pu y réussir ont été conquis. Une longue guerre place presque toujours les nations dans cette triste alternative que leur défaite les livre à la destruction et leur triomphe au despotisme. C'est donc, en général, dans la guerre que se révèle d'une manière plus visible et plus dangereuse la faiblesse d'un gouvernement. Et j'ai montré que le vice inhérent des gouvernements fédéraux était d'être très faible. Dans le système fédératif, non seulement il n'y a point de centralisation administrative ni rien qui en approche, mais la centralisation gouvernementale elle-même n'existe qu'incomplètement, ce qui est toujours une grande cause de faiblesse lorsqu'il faut se défendre contre des peuples chez lesquels elle est complète. Dans la Constitution fédérale des États-Unis, celle de tout où le gouvernement central est revêtu de plus de force réelle, ce mal se fait encore vivement sentir. Un seul exemple permettra au lecteur d'en juger. La Constitution donne au Congrès le droit d'appeler la milice des différents États au service actif, lorsqu'il s'agit d'étouffer une insurrection ou de repousser une invasion. Un autre article dit que dans ce cas, le président des États-Unis est le commandant en chef de la milice. Lors de la guerre de 1812, le président donna l'ordre aux milices du Nord de se porter vers les frontières. Le Connecticut et le Massachusetts, dont la guerre lésait les intérêts, refusèrent d'envoyer leurs contingents. La Constitution, dirent-ils, autorise le gouvernement fédéral à se servir des milices en cas d'insurrection et d'invasion. Or, il n'y a, quant à présent, ni insurrection ni invasion. Ils ajoutèrent que la même Constitution qui donnait à l'Union le droit d'appeler les milices en service actif laissait aux États le droit de nommer les officiers. Il s'ensuivait, selon eux, que même à la guerre, aucun officier de l'Union n'avait le droit de commander les milices, excepté le président en personne. Or, il s'agissait de servir dans une armée commandée par un autre que lui. Ces absurdes et destructives doctrines reçurent non seulement la sanction des gouverneurs et de la législature, mais encore celle des cours de justice de ces deux États, et le gouvernement fédéral fut contraint de chercher ailleurs les troupes dont il manquait. D'où vient donc que l'Union américaine, toute protégée qu'elle est par la perfection relative de ses lois, ne se dissout pas au milieu d'une grande guerre? C'est qu'elle n'a point de grande guerre à craindre. Placée au centre d'un continent immense, où l'industrie humaine peut s'étendre sans bornes, l'Union est presque aussi isolée du monde que si elle se trouvait resserrée de tous côtés par l'océan. Le Canada ne compte qu'un million d'habitants. Sa population est divisée en deux nations ennemies. Les rigueurs du climat limitent l'étendue de son territoire et ferment pendant 6 mois ses ports. Du Canada au golfe du Mexique, on rencontre encore quelques tribus sauvages à moitié détruites, que 6 000 soldats poussent devant eux. Au sud, l'Union touche par un point à l'Empire du Mexique. C'est de là probablement que viendront un jour les grandes guerres. Mais pendant longtemps encore, l'état peu avancé de la civilisation, la corruption des mœurs et la misère empêcheront le Mexique de prendre un rang élevé parmi les nations. Quant aux puissances de l'Europe, leur éloignement les rend peu redoutables. Le grand bonheur des États-Unis n'est donc pas d'avoir trouvé une constitution fédérale qui leur permette de soutenir de grandes guerres, mais d'être tellement situés qu'il n'y en a pas pour eux à craindre. Nul ne saurait apprécier plus que moi les avantages du système fédératif. J'y vois l'une des plus puissantes combinaisons en faveur de la prospérité et de la liberté humaine. J'envie le sort des nations auxquelles il a été permis de l'adopter. Mais je me refuse pourtant à croire que des peuples confédérés puissent lutter longtemps à égalité de force contre une nation où la puissance gouvernementale serait centralisée. Le peuple qui, en présence des grandes monarchies militaires de l'Europe, viendrait à fractionner sa souveraineté, me semblerait abdiquer par ce seul fait son pouvoir, et peut-être son existence et son nom. Admirable position du Nouveau Monde, qui fait que l'homme n'y a encore d'ennemis que lui-même. Pour être heureux et libre, il lui suffit de le vouloir.